Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, la fête de la Toussaint, l'ordination qui va avoir lieu dans quelques instants, et l'anniversaire de la fondation de la fraternité sont un événement que nous fêtons aujourd'hui et qui nous offre l'occasion de méditer d'une manière toute particulière sur ce qu'est la sainteté et particulièrement sur ce qu'est la sainteté du sacerdoce. En effet, s'il est une raison de donner et de choisir ceux qui doivent offrir les saints mystères, c'est bien leur sainteté. S'il est un motif aussi que nous pouvons évoquer au sujet de l'anniversaire de la fondation de la fraternité, et en faisant cela, nous évoquerons tout simplement le but même de la fraternité, qui est d'abord et avant tout de sanctifier les prêtres, de donner à l'Église de saints prêtres. Et je pense que si nous nous adressions à tous ceux qui aujourd'hui jouissent de la gloire du ciel, tous les saints qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie, à tous les saints anges, et qui chantent la gloire de Dieu et de notre Seigneur, si nous leur demandions à chacun d'entre eux quel a été au cours de leur existence terrestre le moyen, la voie de leur sanctification, ne fait aucun doute qu'ils nous répondront: la voie de la sanctification, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. La voie de la perfection, la voie de la sainteté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il est vrai que c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le moyen de notre sanctification, voyez immédiatement quelle doit être aussi pour le prêtre la raison et la voie de sa sanctification. Lui, dont la définition même est d'offrir les saints sacrifices et d'offrir par conséquent, dans la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom propre, la continuation de son sacrifice de la croix. C'est donc là que le prêtre trouvera la raison fondamentale, essentielle, continuelle de sa sanctification. Et ce sera aussi pour lui le moyen de sanctifier le peuple fidèle. Et pour le peuple fidèle, la voie de la sanctification n'est pas autre que celle du prêtre, c'est aussi la voie de la croix. Et c'est en effet saint Paul qui nous enseigne d'une manière si admirable ce qu'est le prêtre dans son chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Saint Paul dit « Omnis pontifex, ex hominibus assumptus, tout prêtre choisi parmi les hommes, pro munibus constituitur inisque sunt ad Deum. Il est constitué, il est fait pour les hommes en ce qui regarde les choses de Dieu, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, pour qu'il offre les dons et pour qu'il fasse le saint sacrifice pour la rédemption des péchés. Et il ajoute même, Et comme il est lui-même entouré d'infirmité, cum ipse secum datus est infirmitate, il doit debet condolere, is qui ignorante et errante, il doit se pencher et compatir et sympathir avec ceux qui sont dans l'erreur et avec ceux qui sont dans l'ignorance. C'est là tout le secret du sacrement de pénitence. Le prêtre est donc fait pour offrir le saint sacrifice et répandre les grâces du sacrifice, particulièrement par le sacrement de pénitence, se pencher sur ceux qui sont dans l'erreur et dans l'ignorance. Et comme il est aussi lui-même pécheur, il doit pour lui, pour ses propres péchés, et non seulement pour les péchés du peuple de Dieu, il doit aussi offrir le saint sacrifice. Voyez qu'en quelques lignes, saint Paul a résumé ce qui fait l'essence même du prêtre. Alors, mes chers amis, vous qui, dans quelques instants, allez monter à l'autel pour recevoir une ordination qui vous prépare à offrir ces saints mystères de Dieu, ces saints mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, méditez ces paroles de saint Paul. Sachez que vous aussi, vous êtes faible. Sachez aussi que vous êtes pécheur. Et pourtant, le bon Dieu vous a choisi. C'est encore saint Paul qui le dit. Que le prêtre ne s'est pas choisi lui-même, mais qu'il a été choisi comme Aaron, comme les Lévites. Choisi par Dieu, par conséquent, pour offrir les saints sacrifices, pour offrir le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous, mes chers amis, à recevoir la grâce du sacerdoce afin d'être de vrais prêtres, afin d'être de saints prêtres, tels que l'Église les veut. Or, qu'avons-nous vu depuis une vingtaine d'années, et même déjà auparavant, car il faut bien reconnaître que la notion véritable du sacerdoce et que le but même pour lequel le prêtre est prêtre commençait déjà bien avant le Concile à disparaître de l'esprit même des prêtres. Hélas, combien de prêtres célébraient le saint sacrifice de la messe sans plus savoir exactement ce qu'il faisait, sans se rendre compte, comme d'une manière un peu machinale, comme un simple fonctionnaire de l'Église. Alors que c'est là que se trouve toute la grandeur du prêtre, toute sa raison d'être, toute sa joie, toute sa consolation, toute sa force se trouve dans le saint sacrifice de la messe. Si le prêtre ne réalise plus ces choses-là, alors ce n'est plus un prêtre. Or, au lieu de revenir à ces notions fondamentales de l'Église, qui sont la pierre et le roc fondamental de l'Église, on a voulu introduire un esprit nouveau. Un esprit nouveau qui, loin de faire retrouver au saint mystère leur véritable signification, à rapprocher ces mystères de la scène protestante, détruisant ainsi ce qu'il y avait de mystérieux, de grand, de divin, de sacré dans le saint sacrifice de la messe, en rapprochant notre sacrifice, le sacrifice de notre Seigneur, de ce sacrifice ignoble des protestants. C'était dénaturer le sacrifice de la messe. Et alors nous avons pu constater, et nous constatons tous les jours, les effets de ce changement de la pensée des prêtres, changement qui s'est introduit sous l'influence des modernistes qui ont envahi l'Église, car ce n'est pas l'Église qui a fait une chose semblable. Ce sont les modernistes et les progressistes qui ont envahi l'Église et qui ont imposé aux chrétiens une idée du sacrifice de la messe qui n'est plus la véritable idée du sacrifice de la messe, qui ont dénaturé le sacrifice de la messe. Et c'est pourquoi nous avons résisté. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des schismatiques. Nous ne sommes pas des hérétiques. Nous résistons. Nous résistons à cette vague de modernisme qui a envahi l'Église, à cette vague de laïcisme, de progressisme, qui a envahi l'Église d'une manière indue, d'une manière injuste, et qui a essayé de faire disparaître de l'Église tout ce qu'il y avait de sacré, tout ce qu'il y avait de surnaturel, de divin dans l'Église, pour le réduire à la dimension de l'homme. Eh bien, nous résistons et nous résisterons. Non pas par esprit de contradiction, non pas par esprit de rébellion, mais par esprit de fidélité à l'Église, par esprit de fidélité à Dieu, par esprit de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, par esprit de fidélité à tous ceux qui nous ont enseigné notre sainte religion, par esprit de fidélité à tous les papes qui ont maintenu la tradition. Et c'est pourquoi nous sommes décidés à tout simplement continuer, persévérer dans la tradition, persévérer dans ce qui a sanctifié les saints qui sont au ciel. Faisant cela, nous sommes persuadés de rendre un service immense à l'Église, à tous les fidèles qui veulent garder la foi, à tous les fidèles qui veulent recevoir vraiment la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il semble que peu à peu, certaines autorités de l'Église commencent à se rendre compte d'une manière plus objective qu'il y a eu de graves erreurs d'accomplis et qu'il serait peut-être temps, sinon de revenir totalement aux choses anciennes, ce qui serait l'idéal, mais de réformer leurs réformes. C'est déjà un premier pas. Hélas, il a fallu pour cela 12 ans de conséquences lamentables de toutes ces réformes qui ont été introduites dans l'Église. Abandon des prêtres, abandon des religieux et des religieuses, ruine des noviciats, ruine même de la sainteté religieuse, ruine des églises, apostasie de combien de fidèles. Il a fallu que tout cela s'étale sous nos yeux pour qu'enfin on commence lentement à prendre conscience du ravage qu'a causé cette réforme qui n'a pas été faite par l'Église, mais qui a été faite par ceux qui étaient imbus d'idées contraires à celles que l'Église a toujours enseignées. Je relisais ces jours derniers l'encyclique Humani Generis du pape Pie XII, qu'il a prononcé en 1950. Cette encyclique n'est ni plus ni moins que la condamnation de tout ce qui s'est fait après le Concile. Il est impossible d'admettre ce qui s'est fait après le Concile et d'admettre en même temps que le pape Pie XII avait raison dans son encyclique Humani Generis. Alors pour nous, nous avons fait notre choix. Nous obéissons au pape de toujours. Et nous sommes persuadés, il n'est pas possible que même le pape régnant ne soit pas, dans le fond de son cœur et de son âme, attaché à tout ce que les papes ont dit avant lui, tous ses prédécesseurs. Même si nous voudrions qu'il abolisse ses réformes d'une manière plus rapide, cependant nous sommes persuadés qu'en étant justement d'accord avec tous les prédécesseurs du pape régnant, et je devrais exclure malheureusement ses deux prédécesseurs immédiats, mais en étant pleinement d'accord avec ses prédécesseurs, nous sommes persuadés de rendre un grand service à l'Église et de nous trouver dans la voie de la vérité. Et c'est cela, je pense, que nous devons voir dans les fêtes d'aujourd'hui. Dans cette ordination qui est une ordination faite comme celle de toujours. Dans la fête de la Toussaint, où tous les saints nous enseignent de demeurer dans la tradition, de faire ce qu'ils ont fait pour se sanctifier, de faire ce qu'ils ont fait pour aller au ciel. Et c'est ce que nous faisons, tout simplement. Nous refaisons les mêmes rites, les mêmes gestes, nous récitons les mêmes prières. Nous adorons le même Dieu, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à notre catéchisme de toujours, comme eux-mêmes ont cru, et c'est ce qui leur a valu d'être au ciel. Alors nous aussi, nous voulons sauver nos âmes et nous voulons suivre nos ancêtres dans la foi et être martyrs avec eux s'il le faut, comme ceux qui l'ont été pour professer leur foi. Et enfin, nous voulons, parce que la fraternité a été le moyen de maintenir la tradition, nous voulons maintenir les buts de la fraternité, qui est tout simplement de continuer l'Église. Continuer l'Église afin de sauver les âmes, afin de donner de saints prêtres aux âmes des fidèles qui attendent avec impatience de retrouver de vrais et de saints prêtres. Voilà, mes chers amis, ce que nous enseigne ces cérémonies et les fêtes que nous fêtons aujourd'hui. Je voudrais que vous trouviez dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela sous la vigilance et sous la garde de la très sainte Vierge Marie, qui a si bien compris le mystère de la croix, qui a vécu le mystère de la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière toute particulière, avec une sagesse infinie, bien demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre profondément ce qu'est le mystère de la croix. Et nous y trouverons toutes les solutions, mes chers amis, toutes les solutions. Lorsqu'au cours de votre existence, des problèmes se poseront à vous, problèmes de toutes sortes, tous les problèmes humains possibles et imaginables, ne cherchez pas ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que vous trouverez la solution des problèmes individuels de chaque personne en particulier. Les âmes viendront se confier à vous, viendront vous exposer leurs problèmes, problèmes de toutes sortes. Vous leur direz toujours, regardez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans cette croix qui est le grand mystère qu'ont enseigné les apôtres, et particulièrement l'apôtre Saint Paul, bien dans cette croix se trouve la solution de tous les problèmes. Parce que la croix, c'est la charité, l'amour jusqu'au sacrifice. eh bien, tous les problèmes se résolvent dans la charité portée jusqu'au sacrifice de soi, jusqu'à la mort s'il le faut. Dernièrement, précisément au cours de ce synode, me trouvant à Rome, ayant l'occasion de rencontrer quelques cardinaux qui discutaient ces problèmes du mariage, problèmes qui apparaissent aujourd'hui beaucoup plus difficiles qu'autrefois. Il semblerait bientôt que, aujourd'hui seulement, des problèmes se posent pour les gens mariés, pour ceux qui sont dans les liens du mariage. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, mais sans sacrifice, il est impossible de résoudre les problèmes du mariage. Sans la croix, il est impossible de résoudre les problèmes du mariage. Comme tous les autres problèmes, d'ailleurs, pas seulement celui-là. Mais exclure le sacrifice du mariage, c'est exclure l'idée chrétienne même du mariage. Il est inutile de discuter pendant des semaines sur la famille chrétienne en excluant le sacrifice de la famille chrétienne. C'est laisser la vraie solution, le vrai remède à part, et par conséquent demeurer sans solution. Qu'il s'agisse des problèmes économiques, qu'il s'agisse des problèmes sociaux, qu'il s'agisse des problèmes politiques, qu'il s'agisse des problèmes de ceux qui sont alités sur des lits d'hôpitaux, il n'y a qu'une solution, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la justice telle que la réalise notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu, rendre au prochain ce qui est dû au prochain. C'est ce qu'a fait notre Seigneur sur sa croix. Il n'y a pas de plus bel acte d'amour de Dieu et de le plus bel acte d'amour du prochain qui ait été fait en dehors de celui de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Et tous les problèmes se résolvent alors dans cette ligne de la croix du sacrifice. Voilà, mes chers amis, ce que doit être votre programme. Programme de votre séminaire, programme aussi de votre sacerdoce. Et alors, vous serez vraiment des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous serez vraiment ce qu'on dit du prêtre et ce qui doit être dit du prêtre, que le prêtre est un autre Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Oui, en effet, il faut bien que je dise un petit mot. Je pense que je ne peux pas faire moins. Oh, certainement, il y en aurait bien d'autres qui auraient pu prendre la parole aussi, mais enfin, je pense que M. la Bédicienne Malraix nous a donné une idée aussi complète que possible de ces 10 années qui viennent de se passer, 10 années de grâce. 10 années de grâce que le bon Dieu nous a données. Je crois que la plupart d'entre vous ont eu conscience une fois, deux fois, trois fois au cours de ces 10 années vraiment d'une action particulière du bon Dieu. Et si les grâces du bon Dieu ne se voient pas par les sens, mais tout de même l'âme en a conscience. Et combien de fois nous avons été stupéfaits des choses qui inattendues, des choses absolument qui paraissaient impossibles, des moments où tout semblait perdu et l'œuvre a continué avec la grâce du bon Dieu, vraiment. Alors, j'avais pensé de faire de cette journée, où peut-être on aurait évidemment pu faire des choses encore beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, mais j'avais pensé au moins nous réunir et appeler les amis, nos chers amis d'Écône, ces amis si fidèles qui nous entourent toujours de leur affection en toute occasion, afin qu'ils partagent avec nous notre joie, notre reconnaissance, notre action de grâce au bon Dieu. Et alors je remercie le bon Dieu et je remercie tous ceux qui sont venus ici Et tous ceux qui collaborent, j'oublierai, je ne veux pas nommer les uns et les autres, je ne veux même pas nommer les groupes, mais tous ceux qui sont ici présents, je pense, et qui collaborent à notre œuvre, eh bien qu'ils soient vivement remerciés et que pour eux, cette journée soit aussi une journée de consolation et une journée de reconnaissance à notre Seigneur et à la très sainte Vierge Marie. Et nous ne devons pas oublier qu'autour de nous, tous ceux qui sont sortis de cette maison et qui sont prêtres maintenant aux États-Unis et en Amérique du Sud et dans toute l'Europe sont unis à nous aujourd'hui, certainement. Et non seulement les prêtres eux-mêmes, mais je pense les fidèles qui bénéficient des grâces que le bon Dieu leur a données ici au séminaire et qu'ils répandent maintenant autour d'eux. C'est donc toute une famille, une immense famille maintenant, dont nous ne pouvons même plus compter les membres, et qui se réjouit avec nous de tout ce que le bon Dieu a fait au cours de ces années. Car peut-il y avoir comme plus beau don pour l'Église qu'un prêtre, un vrai prêtre, un saint prêtre? Alors je pense que notre résolution pour l'avenir doit être de continuer cette œuvre, puisqu'elle a manifestement été bénie de Dieu, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans l'avenir non plus. Alors j'entends, sans doute, et je devine déjà les questions qui sont posées par certains d'entre vous et qui me disent, mais le point de la situation, est-ce que nous ne pouvons pas savoir quelque chose? Eh bien, le point de la situation peut toujours se faire, il doit se faire évidemment, mais sans le faire à vue humaine, parce que si nous le faisons avec des considérations humaines, alors nous risquerions un peu d'être découragés ou d'être lassés par ce combat que nous menons sans cesse et qui semble difficilement aboutir à la victoire. Mais la victoire que nous cherchons, ce n'est même pas une victoire, c'est de la victoire. Nous la tenons en continuant ce que fait l'Église et par toutes les grâces que le bon Dieu nous donne. Déjà cela, c'est une victoire immense, immense. Nous ne devons pas sous-estimer. Mais s'il faut concrétiser un peu le point dans lequel nous nous trouvons actuellement vis-à-vis des autorités romaines, eh bien, depuis 2 ans que le pape Jean-Paul II a été nommé, il faut reconnaître que le pape n'a fait aucun acte, je dirais, d'hostilité ouverte et formelle vis-à-vis de notre fraternité. De sa part personnelle, ça a été le silence complet. Je n'ai jamais entendu dire même, ni de la part du cardinal Sepper, ni par le cardinal Sepper, ni par le cardinal Palazzini, ni par le cardinal Audi, ni par le cardinal Tiandum, ni par le cardinal Ratzinger, aucun d'entre eux ne m'a dit « Le pape est excédé, le pape est prêt de vous frapper à nouveau, prenez garde ». Jamais. Jamais aucune, pas la moindre menace, pas le moindre coup préparé qui ait été signifié d'une manière ou d'une autre par ceux qui sont les intermédiaires entre le pape et la fraternité. C'est tout de même un signe. Et même dans la dernière lettre que j'ai reçue, qui est d'ailleurs la seule lettre que j'ai reçu de la part du Saint-Père depuis 2 ans. J'ai écrit 8 fois au Saint-Père lui-même. Il a donc reçu 8 lettres de ma part. Eh bien, c'est la première réponse que j'ai de sa part, qui n'est pas signée de lui, qui est signée du cardinal Sepper, mais enfin, c'est tout de même une réponse de sa part. Et d'ailleurs, la dernière lettre, la 8e lettre que je lui ai écrite, s'est croisée avec celle du cardinal Sepper. Si bien que les propositions que je faisais, moi, pour une solution, eh bien, se sont trouvées maintenant inconnue du Saint-Père avant que le cardinal Seppert m'ait écrit. Alors les conditions qui me sont données dans la lettre du cardinal Seppert n'ont pas encore été confrontées avec celles que j'ai proposées moi-même. Si bien que je ne sais pas encore quelle va être la réaction du Saint-Père aux conditions que j'ai proposées moi-même. Mais il est clair que, vous voyez, pour le Saint-Siège et pour toute autorité et qui a fait une erreur, disons-le, et je pense qu'ils le reconnaissent même actuellement. Le cardinal Palazzini en est persuadé. Le cardinal Ratzinger me le disait. Il est évident qu'il y aurait des choses qu'il faut revoir. On ne peut pas continuer dans la lancée de ce que nous avons fait depuis le Concile. Il faut changer certaines choses. Ils reconnaissent donc qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais il est toujours difficile pour une autorité de se dédire officiellement, et surtout pour une autorité comme celle du Saint-Siège. Alors, je pense qu'actuellement, ils voudraient sans doute nous donner raison, et c'est la première fois qu'ils nous disent « Nous sommes prêts à vous donner l'autorisation de la liturgie de Saint-Pie-V ». C'est la première fois qu'ils le disent explicitement, dans une lettre officielle. Mais à la condition que vous reconnaissiez toutes les réformes qui ont été faites depuis le Concile et que vous les acceptiez officiellement. Évidemment, c'est une condition impossible. Condition impossible. Il nous est impossible de reconnaître, je dirais, que ces réformes qui ont été faites depuis le Concile sont bonnes, et que par conséquent, nous sommes prêts à les utiliser, et par conséquent à dire la nouvelle messe, et par conséquent à prendre tous les nouveaux rites si on nous le demande. C'est une chose impossible, impossible. Ce serait, je dirais, renier, je pense, ce que les papes précédant ceci ont affirmé. Alors, nous ne pouvons pas renier la tradition, ce n'est pas possible. Mais je pense que le fait, d'une part, qu'il n'est plus question de nous condamner, qui est au contraire, qu'ils reconnaissent au contraire déjà pratiquement le bien fondé de notre résistance et la légitimité de ce que nous faisons, et c'est déjà énorme, énorme. Maintenant, ils voudraient bien que nous acceptions toutes les réformes qui ont été faites, mais encore une fois, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va être la réaction du Saint-Père devant le refus d'accepter des réformes et de les utiliser pour nous? Je ne sais pas quelle sera sa réaction. Personnellement, ce que je lui proposais et ce que je demandais comme condition, je lui disais que je voulais bien faire une déclaration sur les ordinations, que j'ai fait les ordinations en toute conscience, comme évêque catholique, mais que je reconnaissais que ces ordinations n'avaient pas pu, à cause des circonstances, c'est pas de ma faute, à cause des circonstances qui m'ont été imposées, que je n'ai pas pu les faire selon toutes les prescriptions du droit canon, c'est clair. Mais comme le disait très bien le cardinal Palazzini, il disait « Oui, mais vous les avez fait selon les lois fondamentales du droit canon. » Eh oui, mais pas selon toutes les prescriptions, selon la lettre du droit canon. C'est pas possible, ils m'ont empêché de le faire. Ça, c'est une chose que je veux bien signer. Ensuite, que je reconnais que nous voulons lire le Concile selon les paroles elles-mêmes que le Saint-Père lui-même a prononcées, le pape Jean-Paul II, au début de son pontificat, en disant que le concile doit être lu à la lumière de la tradition et du magistère constant de l'Église. Pour moi, je traduis ces paroles. Nous devons nous servir de la tradition comme crible à travers lequel nous passons tout ce qui a été dit au cours du concile, tous les textes du concile, et par conséquent, ce qui est conforme à la tradition est tout à fait acceptable. Ce qui est ambigu doit être expliqué selon l'esprit de la tradition. Et ce qui est contraire à la tradition est inacceptable. Alors, cela aussi, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Nous avons toujours pensé ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous l'avons toujours dit. On sait que rien, ça ne change rien à notre position. Je suis prêt à signer ça aussi. Et troisième point, troisième affirmation que je serais prêt à signer également, ce serait que je n'ai jamais dit que la messe de Paul VI était de soi, je dis bien de soi, invalide. Je n'ai jamais dit cela, jamais. Au contraire, j'ai toujours dit que je n'estimais pas que la messe était invalide. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de messes nouvelles qui soient invalides à cause d'autres raisons, mais pas de soi. Ça aussi, je suis prêt à le signer. Donc, c'était les trois choses qui ne changent rien, absolument rien, à notre position de toujours. Moyennant quoi, on nous accorde les quatre livres comme livres liturgiques qui ont été édités par le pape Jean XXIII, le pontifical, le missel, le rituel, le bréviaire. On nous permet d'utiliser ces livres librement, partout, sans plus aucune réprimande, sans plus aucune entrave à notre liberté. Deuxièmement, il lève cette suspense qui pour moi est illégale et n'existe pas. Mais enfin, si pour eux elle existe, il faut tout de même qu'ils disent ouvertement qu'elle n'existe plus pour eux. Et troisièmement, la fraternité est reconnue par le Saint-Siège de nouveau comme société de droit pontifical, c'est-à-dire dépendant directement de Rome, de la congrégation du clergé, c'est-à-dire du cardinal Audi. La congrégation, donc, serait notre société, dépendrait directement du cardinal Audi. Chose tout à fait régulière, comme bien d'autres congrégations. Donc, ce qui nous mettrait dans une situation tout à fait régulière. Voilà les conditions qui sont posées. Je pense que, voyez, la seule difficulté est celle-ci. Vous demandez tous ces livres qui confirment votre position dans la liturgie ancienne, dans la liturgie de toujours, parce que ces livres du pape Jean XXIII n'ont pratiquement rien changé à la liturgie de toujours. Alors, vous demandez ces livres-là, acceptez alors les livres de la nouvelle messe, acceptez de dire la nouvelle messe quand on vous le demande dans une paroisse ou dans une autre. Comme cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous sommes convaincus que ces réformes sont mauvaises, si elles ne sont pas comme invalides ou quelque chose. Elles sont mauvaises, elles empoisonnent le monde, elles sont protestantisantes. Elles font avoir un esprit protestant, lentement mais sûrement. Elles nous détachent de la foi catholique. Eh bien, nous ne pouvons pas utiliser des rites qui, lentement, nous empoisonnent notre foi. Ce n'est pas possible, ça. Pas possible. Nous avons lutté depuis 10 ans pour maintenir, justement, la tradition, c'est-à-dire les sources de la grâce, les sources de la foi catholique. Nous ne pouvons pas maintenant, tout à coup, lâcher ce que nous avons fait pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, probablement, il va falloir encore attendre. Ils vont dire, ah, alors c'est pas possible, on peut pas, il faut attendre, il faut que les choses s'arrangent, il y aura encore des tractations, des correspondances, des réunions, puis attendre. C'est très dommage, évidemment, ce serait très dommage. Il faut prier pour que le pape soit éclairé, que le pape soit assez libre pour prendre une décision de lui-même, sans se laisser influencer par son entourage. Et si ce n'est pas lui, ce sera le suivant. Mais que le pape soit assez libre
pour prendre une décision de lui-même. Parce que c'était affreux de penser que pendant ce temps qui passe, les âmes se perdent. Les âmes, c'est apostasie, n'est-ce pas? L'Église est en train de se décomposer complètement. C'est affreux. Alors, nous devons prier pour que le pape prenne une décision. Or, dans toute la lettre que me donne, la longue lettre de 6 pages que me donne le cardinal Sépère, il y a 3 pages de grief. Vous avez encore dit ceci dans tel discours. Vous avez encore fait des ordinations depuis tant de temps. Vous avez encore fait des confirmations, etc. Vous avez encore fait ceci. Vous avez encore fait cela. Tout cela, ce sont des griefs du cardinal Sépère, pas du pape. Je suis persuadé que ce n'est pas du pape. Le cardinal Sépère et ce qu'il représente, c'est-à-dire tous les progressistes de Rome, nous en veulent à mort. Ils voudraient nous supprimer. Il y a encore tout un monde à Rome qui est absolument contre nous, pour ne pas nous faire d'illusions. Mais alors après, c'est même séparé par 3 points dans sa lettre. Il passe à un autre chapitre. « Néanmoins, dit-il, malgré tout ce que je viens de vous dire, néanmoins, le pape est décidé à trouver une solution. » Ça, c'est l'idée du pape. À ce moment-là, c'est le pape qui parle. Le cardinal Sépère ne veut pas pouvoir donner une solution que le pape veut apporter sans donner un peu toute la rancœur qu'il a, et tout ce, pas lui-même peut-être, mais ceux qui l'entourent et ceux qui sont à Rome, et qui disent, on ne va tout de même pas maintenant lui donner l'impression que tout ce qu'il a fait, c'est rien. Mais je dis, ce n'est pas nous qui sommes dans notre tort, il ne faut pas renverser les rôles. Qui a changé l'Église? Qui a transformé l'Église? Qui a fait toutes ces réformes qui détruisent l'Église? Pas nous. Alors, ils changent souvent, n'est-ce pas, ces progressistes nous jugent comme si nous étions coupables de tous les crimes contre l'Église. Qui est coupable de crimes contre l'Église? Pas nous. Sinon, pendant 20 siècles, alors, on a travaillé contre l'Église. Donc, ce sont eux qui ont changé l'Église. Ce sont eux qui ont changé les choses. Ce sont eux qui ont détruit l'Église. Alors, nous attendons patiemment qu'ils reconnaissent, ils commencent à le reconnaître, mais qu'ils concluent de leur reconnaissance des torts qu'ils ont eus, des erreurs qu'ils ont faites, qu'ils commencent à dire maintenant, eh bien oui, en effet, il est plus que temps de revenir à la tradition. Et nous attendrons patiemment que ce temps arrive. Quand viendra-t-il? Je n'en sais rien. En tout cas, on continue toujours les tractations. Je pense que cette lettre, évidemment, est importante. Cette lettre de donnant les sentiments du pape est très importante. Enfin, avec la grâce de Dieu, nous espérons que les choses finiront bien par s'arranger pour le bien des âmes, n'est-ce pas? C'est ça. Voyez un exemple. Par exemple, les évêques allemands. Les évêques allemands ont discuté. Ils le disent eux-mêmes dans leur lettre. Dans la lettre qui reconnaît qu'un catholique ne peut pas être franc-maçon, qu'il y a incompatibilité essentielle entre toutes les maçonneries. Ils ne distinguent aucune, ils le disent explicitement, même celles qui se disent croyantes, vous savez, toutes les maçonneries, il est absolument, c'est essentiellement impossible qu'un catholique puisse être franc-maçon, parce que les doctrines sont fondamentalement opposées. Il aura fallu 10 ans de discussion pour découvrir ça. Découvrir quoi? Mais ce que les papes ont dit avant eux. Il y a 10 encycliques des papes qui disent la même chose. Alors ils ont méprisé ce que tous les papes ont dit avant eux. Ils ne s'en sont pas occupés. Ils sont partis à zéro, comme si bien on va examiner si la franc-maçonnerie pourrait éventuellement être une secte qui pourrait être admissible pour un catholique. Mais enfin, qu'ont fait leurs prédécesseurs? Tous ces papes qui ont parlé, sont-ils tous des gens qui étaient mal informés ou qui ne savaient pas ce qu'ils disaient? Alors maintenant, on a donné l'impression pendant ce temps-là, pendant 10 ans, que les laïcs pouvaient faire très bien partie de la franc-maçonnerie. Beaucoup ont donné leur nom à la franc-maçonnerie parce qu'ils disaient maintenant l'Église n'est plus contre la franc-maçonnerie. Ça donnait cette impression-là. Alors maintenant, on dit non, c'est fini. C'est le même exemple qu'avec la pilule, n'est-ce pas?
Quand on a discuté, quand il s'est agi de cette fameuse pilule, le pape Paul VI, on a discuté pendant 2 ou 3 ans. Pendant ce temps-là, tout le monde, les gens ont dit, ben, c'est libre, puisqu'on en discute. Donc, on se passe probablement, ça va être libre, certainement. Alors, l'immoralité s'est répandue partout. Et après, tout à coup, après 2 ans, on a enfin découvert que c'était contraire à la morale chrétienne. Alors que c'était évident. Il n'y avait pas besoin de discuter pendant 2 ans pour savoir ça. Ben, c'était clair. C'était tellement clair que le pape Pie XII avait dit des choses absolument évidentes là-dessus. Pourquoi mépriser ce que le pape Pie XII a dit et recommencer comme s'il n'avait rien fait, comme si les papes n'avaient rien dit? C'est terrible, parce que c'est l'immoralité qui est rentrée. Pour faire changer ça ensuite, c'est très difficile. Alors maintenant, c'est la même chose pour la liturgie. Ils vont commencer maintenant à s'apercevoir, ah oui, en effet, cette liturgie, c'est pas très bon, ça a des effets vraiment néfastes. Et alors ils vont attendre combien de temps encore? Encore 5 ans, encore 10 ans? Il n'y aura plus personne dans les églises, il n'y aura plus personne dans les couvents. Eh bien, c'est effrayant. Il faudrait que tout de suite, pourquoi avoir changé cela? Ils vont s'apercevoir après qu'ils vont retourner de nouveau, qu'il faut retourner de nouveau à la tradition. Enfin, c'est vous dire que c'est pour ça qu'il faut tenir. Il ne faut pas que nous lâchions, n'est-ce pas, pendant qu'ils sont en train de reconnaître eux-mêmes que ce qu'ils ont fait n'est pas conforme à la doctrine de l'Église, n'est pas conforme au bien de l'Église, ben, il ne faudrait pas que nous lâchions à ce moment-là. Au contraire, il faut tenir jusqu'au moment où ils reconnaîtront, ben oui, vous avez raison, ou même qu'ils ne nous le disent pas, ça nous est bien égal. Mais enfin, au moins qu'il laisse la liberté et qu'il laisse la tradition revenir en honneur dans l'Église. C'est le seul salut de l'Église, que la tradition revienne dans l'Église. Qu'elle revienne par moi ou par un autre, je l'ai déjà dit d'ailleurs à Rome, moi je suis tout prêt à me retirer. Je suis tout prêt à prendre ma retraite et à me cacher dans le plus loin possible pour qu'on n'entende plus parler de Mgr Lefebvre. Si c'est Mgr Lefebvre qui est gênant, moi ça m'est égal. Vous voyez, il y a toute cette jeunesse qui est là, toute prête à prendre ma place. Alors, eh bien, qui est quelqu'un d'autre à ma place, si ça les arrange, si c'est ça qui doit leur permettre de laisser la liberté à la tradition et de redonner à la tradition son honneur dans l'Église, je suis prêt, tout de suite prêt. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Il faut que nous prions de tout cœur, que nous demandions au Dieu qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils en finissent et qu'ils nous donnent cette liberté. Enfin, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je voulais vous dire, faire le point sur la situation actuelle et vous remercier de vos encouragements, de votre soutien, et féliciter les séminaristes, les remercier aussi de tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont exprimé tout à l'heure, et les pères aussi. Grâce à Dieu, je ne sais pas comment on pourrait intituler la 5e partie de ce directeur, mais je pense que c'est vraiment le temps de la paix et le temps de la sérénité. Et vraiment, dans les séminaires actuellement, je remercie le bon Dieu qui fait que les séminaires sont dans la paix la plus complète. Aussi, dans partout où nous avons nos séminaires, c'est vraiment une grande consolation pour nous de sentir cette union des professeurs entre eux et des élèves auprès des professeurs. Alors, c'est l'union dans la charité, c'est ce que nous devons, n'est-ce pas, demander pour eux, afin qu'ils se préparent à devenir des apôtres dont nous avons besoin.
Chers amis, avant de vous parler et de méditer sur le mystère de cette fête du précieux sang en rapport avec le sacerdoce que vont recevoir ces diacres ici présents, Je voudrais répondre à une objection. On nous dit en effet, en faisant ces ordinations, vous désobéissez. C'est une objection courante. Eh bien, lorsque cette objection m'est présentée, je réponds, oui, c'est vrai, nous désobéissons. Mais nous désobéissons à qui et à quoi? Nous désobéissons au modernisme. Nous désobéissons au libéralisme. Nous désobéissons à tous ceux qui ont introduit à l'intérieur de l'Église des erreurs qui ont été condamnées maintes fois par les souverains pontifes. En cela, oui, nous désobéissons pour demeurer fidèles, pour demeurer fidèles à l'Église, pour demeurer fidèles à la tradition, pour demeurer fidèles au pape. Voilà pourquoi nous désobéissons. Parce que nous voulons continuer l'Église. Parce que nous voulons construire l'Église et non point la démolir. Et à ce propos, hier, on nous présentait une brochure qui contenait une protestation de 40 prêtres allemands. Protestation aux évêques allemands. Magnifique protestation qui dit « Nous devons croire ceci » et ils prennent des articles du credo et des articles de notre foi. Et ensuite ils disent « Et nous constatons ceci », c'est-à-dire le contraire, qu'on est en train de démolir la foi en Allemagne. On pourrait le dire d'ailleurs dans tous les pays catholiques du monde. Eh bien, cette protestation des 40 prêtres allemands, ou prélats allemands, cette protestation rejoint ce que nous pensons, exactement ce que nous pensons. Cependant, ces prêtres ne poussent pas la logique de leur protestation jusqu'à repousser les réformes. Ils obéissent aux réformes qui ont été causées par ces erreurs modernes, par ces erreurs contre la foi. Nous voulons être logiques avec nous-mêmes. Nous ne voulons pas protester contre les erreurs et les pratiquer au cours de nos cérémonies et les pratiquer dans la liturgie, dans notre prédication, dans nos sacrements. Nous voulons rejeter les erreurs et nous voulons rejeter tout ce qui est la conséquence aussi de ces erreurs. Voilà ce que je voulais dire avant d'adresser quelques mots d'édification à nos futurs jeunes prêtres. Eh bien, chers amis, vous qui allez dans quelques instants recevoir la grâce du sacerdoce, rendez grâce à Dieu aujourd'hui de cette journée qui est peut-être la plus importante, la plus belle, la plus sublime dans votre vie. Rendez grâce à Dieu d'être ordonné sous le signe du sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en effet, la Providence a voulu, a choisi que vous soyez ordonnés le jour de la fête du précieux sang, et c'est pour cela que vous portez vos tuniques rouges. Y a-t-il un rapport intime entre le sang de Jésus et votre sacerdoce? Oh oui, oui, il y a un rapport profond, essentiel, entre le sang de Jésus-Christ et votre sacerdoce. Dieu, dans sa grande charité, voulant nous racheter du péché de nos premiers parents et du péché dont nous étions tous coupables, rendus coupables par la faute de nos premiers parents, a voulu choisir de donner son sang. Il est venu s'incarner, prendre un corps comme le nôtre, pour donner son sang, pour offrir son sang à son Père, pour racheter par le prix de son sang tous nos péchés et nous rendre la vie éternelle, la vie qu'il voulait nous donner et qu'il veut nous donner, cette vie qui est une participation à sa vie propre. Et alors, pour réaliser ce désir de charité, cet amour miséricordieux, sa miséricorde infinie, il a voulu que le sacrifice qu'il a offert sur le calvaire ne soit pas seulement un sacrifice d'un jour, mais un sacrifice qui dure jusqu'à la fin des temps. Et pour réaliser ce projet ineffable, il s'est choisi des prêtres. Et aujourd'hui, il vous a choisi, chacun d'entre vous. Non vos, mais legistis, sed ego et legivos. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit notre Seigneur, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et aujourd'hui, Jésus vous a choisi pour vous remettre dans vos mains son propre sang, pour vous permettre de continuer son sacrifice du calvaire, de continuer à faire couler son sang rédempteur sur les âmes et les sanctifier. Et en vous choisissant, il a voulu vous marquer du signe de son sacerdoce. Dans quelques instants, en effet, lorsque le pontife va imposer ses mains sur vos têtes et prononcer les paroles de la consécration sacerdotale, vous serez prêtre pour l'éternité. Et vous pourrez désormais, en prononçant les paroles de la consécration, faire descendre le sang de Jésus sur les autels pour la gloire du bon Dieu, pour établir le pont entre la terre et le ciel, pour qu'il n'y ait plus de rupture entre l'humanité et Dieu. Ce sera le chant de louange pour le bon Dieu. Et en même temps, vous répandrez ce sang sur vous-même pour vous sanctifier, pour vous purifier, pour élever vos âmes vers Dieu, et puis pour sanctifier les fidèles. C'est cela votre principal apostolat. Lavez les âmes dans le sang de Jésus-Christ. Et pour les préparer à recevoir le sang de Jésus-Christ dans le sacrement le plus important, celui qui est le plus intimement uni au sacrifice de la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, il faut les préparer, il faut qu'ils soient dignes, que les fidèles soient dignes de recevoir ces sacrements. Et alors vous allez, par le fait même que vous recevez la grâce de l'ordination, recevoir la charge de prêcher. Munus docendi, et la charge de sanctifier, munus sanctificandi. Voilà les deux rôles principaux que vous aurez à remplir au cours de votre vie sacerdotale. Enseigner les fidèles afin de les attirer à Jésus-Christ et leur donner Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, laver leurs âmes dans son sang afin qu'elles soient purifiées et qu'elles soient sanctifiées. Pour enseigner la foi aux fidèles et les préparer à recevoir le sang. sang de notre Seigneur Jésus-Christ dignement, vous leur prêcherez le credo, qui est le résumé de l'œuvre de charité du bon Dieu. Et vous leur prêcherez fidèlement, tel qu'on vous l'a enseigné au séminaire, tel que vous l'avez appris dans votre jeunesse. Vous ne changerez pas ce credo, n'en changez point un mot, un seul mot, c'est la foi de l'Église. Vous écouterez les paroles de saint Paul à Timothée, argoué, in crepa, obsecra. Venit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt. Il viendra un temps où l'on n'enseignera plus la sainte doctrine. Ad fabulas autem convertantur, ils se tourneront vers des fables. Bien, vous ne serez pas de cela, mais ce temps est venu aujourd'hui où l'on n'enseigne plus la sainte doctrine et où on se tourne vers des fables. Quelles sont ces fables? Ces fables, c'est l'œcuménisme. Ces fables, c'est la liberté religieuse. Ces fables, ce sont les droits de l'homme. Voilà ce qui est enseigné aujourd'hui. Alors vous écouterez les paroles de l'apôtre et vous enseignerez la saine doctrine, comme l'apôtre le conseillait à Timothée. Doctrine de l'Église, de toujours, afin que les âmes soient éclairées et que leur foi corresponde vraiment à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ et au magistère de l'Église de toujours. Car la foi n'est pas autre chose que la préparation de la vision béatifique. Il faut donc préparer les âmes à voir un jour le bon Dieu. Et ce n'est pas par l'erreur que l'on prépare les âmes à voir Dieu. C'est au contraire par la prédication de la vérité. Vous prêcherez donc la vérité. Vous le ferez en enseignant les enfants au catéchisme. Vous le ferez aussi en instituant des écoles pour que les enfants soient bien enseignés, pour qu'ils soient bien éduqués. C'est une importance capitale aujourd'hui qu'à avoir des vraies écoles catholiques qui forment vraiment la jeunesse en vrais chrétiens, leur donnant à la foi les vérités de notre sainte religion et en même temps la véritable éducation chrétienne. Et puis, par tous les moyens qui sont à votre disposition aujourd'hui, vous ferez en sorte que les âmes soient régénérées, soient fortifiées dans leur foi dont elles ont tant besoin aujourd'hui vis-à-vis de toutes les erreurs qui circulent dans le monde. Voilà le rôle que vous aurez à remplir par cette charge d'enseigner que vous allez recevoir dans quelques instants d'une manière officielle. Si votre charge de sanctification, l'Église vous donne ce pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe. C'est de la croix de Jésus, de son cœur transpercé, que découlent toutes les grâces des sacrements, toutes les grâces dont vous-même vous avez besoin pour vous et dont vous avez besoin pour donner aux âmes. Alors vous aurez ce sentiment, ce désir de garder fidèlement cette source, de ne pas la corrompre. Or, il est dangereux de changer les rites du sacrement, des sacrements et du saint sacrifice de la messe. Et surtout de donner comme un nouveau symbolisme, une nouvelle signification aux rites, de telle manière qu'il puisse éventuellement y avoir un changement profond et qui rendrait même invalide le sacrement. Car en effet, les sacrements sont des signes, des symboles. Si l'on change le symbole, on risque de changer aussi la nature du sacrement. Vous voyez, comme actuellement, on a tendance à faire de la Sainte Messe non plus le symbole du sacrifice et du sacrement relié au sacrifice. Sacrement de l'Eucharistie, intimement lié au sacrifice, qui n'en est que le but et le résultat. Non, on fait maintenant de la Sainte Messe non plus un sacrifice, mais un repas. Le symbole change. Et en changeant le symbole, on risque de changer la nature même du sacrement. L'Eucharistie contient la victime qui s'est offerte et qui est intimement liée au sacrifice. Il n'y a pas d'Eucharistie sans sacrifice, il n'y a pas de sacrifice sans Eucharistie. Les deux, le sacrifice et le sacrement, sont intimement liés. Alors gardez cela profondément dans vos consciences, afin de donner aux fidèles le véritable sacrifice de la messe et le véritable sacrement de l'Eucharistie. Cela ne dépend pas de nous. C'est notre Seigneur lui-même qui a institué le sacrement de l'Eucharistie dans son sacrifice. Avec son sacrifice, le jour de la scène, il a offert un sacrifice tout entier lié au sacrifice de la croix, comme vous, vous offrirez le sacrifice tout entier lié au sacrifice de la croix aussi. Et de là résultera ce produit du sacrifice, ce produit merveilleux, miraculeux, qu'est la victime qui se trouve dans l'Eucharistie. Gardez cela précieusement dans vos cœurs afin de perpétuer ce sacrifice, perpétuer la vérité du sacrifice de notre Seigneur au cours de votre vie et de ne vouloir jamais donner une autre signification que celle que notre Seigneur lui-même y a donnée. Vous allez d'ailleurs être ordonné dans ce sacrifice, par ce sacrifice, avec le pontife, vous offrirez ce sacrifice par lequel vous serez fait prêtre. Des autres sacrements. Prenez garde à la tendance moderne de considérer tous ces sacrements, tous les sacrements, comme un signe communautaire, collectif, une espèce de collectivisme qui marque les nouveaux sacrements. Alors que notre Seigneur a fondé les sacrements, institué les sacrements pour sanctifier les personnes, les individus, pour que nous soyons sanctifiés, chacun d'entre nous, et pas seulement un signe communautaire. Il en est comme cela du baptême. On donne maintenant des baptêmes collectifs sous prétexte que le baptême n'est plus qu'un rattachement à la communauté. Ce n'est pas cela le sens profond du sacrement du baptême. Credo in unum baptismum in remissionem peccatorum. Je crois au baptême, en un baptême, pour la rémission des péchés, pour la rémission du péché originel en particulier, et pour donner la vie éternelle, pour donner la vie de Dieu. Il en est de même des confessions, confessions collectives. Il en est de même des extrême-onctions, on donne des extrême-onctions collectives. Tout cela change le sens que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donner au sacrement. Le sacrement était fait pour la sanctification personnelle. Nous nous sauvons chacun d'entre nous. Nous ne nous sauvons pas par la collectivité, sans doute la société nous aide à nous sauver. Mais lorsque nous paraîtrons devant le bon Dieu à l'heure de notre mort, ce n'est pas la collectivité qui sera jugée en nous, c'est nous-mêmes, c'est nos âmes. Et par conséquent, prenons garde à cette espèce de nouvelle prospective des sacrements qui risque aussi de rendre invalides ces sacrements. Qui risque, c'est un risque. Nous devons garder fidèlement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a institué et ainsi être sûr que vous donnez aux fidèles la vie éternelle, la vie dont ils ont besoin, cette vie qui les prépare à la vie de toujours. Cette vie de la grâce, vie de la foi, vie de l'espérance, vie de la charité. Soyez soucieux de donner aux âmes cette vie pour laquelle Jésus-Christ est mort et pour laquelle il a donné son sang. Et enfin, je terminerai, mes chers amis, par cette considération qui est faite au sujet de la Très Sainte Vierge dans l'office de Notre-Dame des Sept Douleurs après la Passion. Il est dit dans cet office mis sur les lèvres de la Très Sainte Vierge, Dilectus meus, candidus, rubicondus, elle regarde Jésus sur la croix, et elle dit, mon bien-aimé, et candide, et rayonnant de blancheur, de gloire, mais aussi tout rouge, rouge de son sang, totus desiderabilis, totus amabilis, tout entier, aimable, tout entier, rempli d'amour. Totus spirat amorem, il respire la charité, il respire l'amour. Et en effet, toute son attitude, caput inclinatum, manus extense, latus apertum, sa tête penchée, ses bras étendus, son cœur transpercé, totus spirat amorem. Voilà la vision de la Très Sainte Vierge de son divin Fils. Et l'office ajoute, pis lacrimis, ô Beatissima Maria, Beatissima Virgo, pis lacrimis, effondans, spectans, non tantum, vulnus livorem vulnerum, sed mondi salutem. Ô bienheureuse Vierge, vous versez des larmes, mais versant ces larmes, vous regardez en Jésus, non pas tellement ses blessures, mais vous pensez au salut du monde. Eh bien, mes chers amis, je pense que c'est cette croix que vous devez toujours avoir devant les yeux et les sentiments de la Très Sainte Vierge Marie vis-à-vis de cette croix, vis-à-vis de ce sacrifice de notre Seigneur. Vous aussi, vous aurez cette considération et cet amour infini, cet amour profond du sacrifice de notre Seigneur, de votre sacrifice de la messe, de la croix, que vous offrirez tous les jours, que vous continuerez ce sacrifice, que vous continuerez d'offrir tous les jours. Demandez à la Vierge Marie de mettre ces sentiments dans votre cœur, pour que vous soyez, comme son divin Fils, un vrai prêtre et un prêtre pour l'éternité, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, réunis une nouvelle fois dans la région où s'est sanctifié Saint Nicolas de Flux, je voudrais pendant ces quelques instants attirer votre attention sur les leçons que nous donne la vie de Saint Nicolas de Flux. Saint Nicolas de Flux est né en 1417 et il est mort en 1487. Il a donc vécu 70 ans et il est mort le jour anniversaire de sa naissance, le 21 mars. Nous pouvons distinguer dans la vie de Saint Nicolas de Flux deux périodes particulières. Les 50 premières années de sa vie et les 20 dernières années de sa vie. Et il me semble que le bon Dieu lui a donné des grâces vraiment extraordinaires pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, pour suivre l'exemple de notre Seigneur. Car en effet, de même que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu 30 ans, humblement caché à Nazareth, que faisait-il devant Dieu? Lui qui était Dieu, devant son Père, cet homme Dieu, il a tout simplement accompli la volonté de son Père, accompli la volonté de Dieu pendant 30 ans, dans l'humilité, dans la discrétion, dans l'obéissance à ses parents. Voilà l'exemple magnifique que notre Seigneur nous a donné. Eh bien, Saint Nicolas de Flux aussi, pendant les 50 premières années de sa vie, a donné l'exemple d'un jeune homme pieux, tout entier désireux de faire la volonté du bon Dieu. Et au cours de son mariage, eh bien, son mariage a donné naissance à 10 enfants qu'il a bien élevés. Ménage modèle, faisant donc ainsi, accomplissant la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait de lui. Ce fut la première période de Saint Nicolas, de la vie de Saint Nicolas de Flux. De la vie de Saint Nicolas de Flux ressemble aussi à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, au cours de ses 3 années de vie publique et à la fin de sa vie publique, a à la fois vécu une vie de sacrifice, une vie de prière et une vie de souffrance jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à subir la passion la plus horrible que l'on puisse subir. Notre Seigneur a été crucifié et il a offert cela pour les hommes pécheurs, pour ses frères, pour racheter l'humanité. Et bien de même, Saint Nicolas de Flux aussi, pendant les dernières 20 années de sa vie, a été appelé d'une manière extraordinaire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce, un signe, appelé lui aussi à souffrir, à offrir sa vie en sacrifice pour la rédemption des péchés du monde. La grande contemplation de Saint Nicolas de Flux dans sa grotte, c'était la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a appliqué cette passion de telle manière qu'il n'a même plus mangé d'aliments pendant ses 20 années. Il s'est nourri de la Sainte Eucharistie. C'est un fait prouvé. Prouvé par de nombreux témoignages. Saint Nicolas de Flux s'est abstenu de nourriture corporelle pendant ses 20 ans. Il recevait le sacrement de l'Eucharistie une fois par mois dans les débuts et 3 fois par mois ensuite lorsqu'un prêtre est venu habiter près de lui, un de ses amis. Voilà la vie de souffrance, la vie de pénitence qu'a mené Saint Nicolas de Flux. D'ailleurs, bien sûr, avec l'accord de son épouse, il n'a pas voulu quitter sa famille sans que son épouse soit consentante et sans que son directeur de conscience également l'encourage à suivre cette vie de pénitence. Pénitence extraordinaire, suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dévouement à son prochain, en 1481, lorsque les confédérés étaient en train de s'opposer les uns aux autres et presque d'en venir à une guerre civile, son ami prêtre est venu le voir et a dit: Nicolas, venez, venez sauver votre patrie. On a besoin de vos conseils, on a besoin de vos jugements pour sauver les confédérés. Et il est parti et il a prêché à tous les responsables des différents cantons confédérés. Il leur a prêché la paix, la charité, la fraternité. Il leur a dit, pensez à Dieu, pensez à l'amour que le bon Dieu a eu pour nous. Gardez cet amour, vous êtes catholique, vous devez manifester votre foi catholique. Et ils l'ont entendu, et ils l'ont écouté. Et ainsi les cantons de Fribourg et de Soleure sont devenus aussi confédérés. Et ainsi la paix a commencé à régner dans ces cantons suisses. Il est vraiment l'apôtre de la paix, comme notre Seigneur Jésus-Christ, suivant son maître, apôtre de la paix. Que cette grande leçon, ces deux grandes leçons de Saint Nicolas de Flux soient gravées dans nos mémoires. Que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, aimez-vous les uns les autres, demeurez dans la paix, je vous donne ma paix. Mais il a aussi prédit aux apôtres qu'il y aurait beaucoup de persécutions, que le monde le haïssait et que le monde haïrait les apôtres comme ils ont haï notre Seigneur et qu'il les persécuterait à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Eh bien, Saint Nicolas de Flux a dit la même chose. S'il a prédit la paix à la Suisse, aux confédérés, il leur a aussi prédit des tribulations. Voilà ce qu'il disait. Allusion vraiment prophétique à la révolution religieuse qui bientôt éclatera après sa mort. Rappelez-vous que Saint Nicolas de Flux est mort en 1487. En 1483, naissait Luther, qui deviendra un démon sorti de l'enfer pour déchirer l'Église, pour ruiner la foi de millions et de millions de fidèles, pour détruire les autels, détruire le saint sacrifice de la messe. Il n'avait donc, quand Saint Nicolas est mort, il n'avait que 4 ans. Par conséquent, on ne veut pas dire que Saint Nicolas de Flux pouvait être suffisamment averti de ce qui devait arriver. C'est donc vraiment une vue prophétique de sa part. Et voici ce qu'il dit. Il va venir un temps malheureux de révolte et de dissension dans l'Église. Oh, mes enfants, ne vous laissez séduire par aucune innovation. Ne vous laissez séduire par aucune innovation. Des choses nouvelles. Ralliez-vous et tenez ferme. Restez dans la même voie, dans les mêmes sentiers que nos pieux ancêtres. Restez dans la même voie, dans les mêmes sentiers que nos pieux ancêtres. Conservez et maintenez ce qu'ils vous ont enseigné. C'est ainsi que vous résisterez aux attaques, aux ouragans, aux tempêtes qui vont s'élever avec tant de violence. Voilà ce qu'avait prédit Saint Nicolas de Flux. Et de fait, que de déchirements ensuite dans la Suisse, entre les cantons, à cause de ces guerres de religion suscitées par Luther et par tous ses disciples. Que nous dirait aujourd'hui Saint Nicolas de Flux, mes bien chers frères? Il nous dirait, suivez l'exemple de Jésus-Christ comme je l'ai suivi moi-même, j'ai essayé de le suivre moi-même. Faire la volonté du bon Dieu. Premier point. Deuxième point. Offrir sa vie en sacrifice. Porter la croix de notre Seigneur. De nos propres péchés pour aller au ciel, pour éviter l'enfer et porter cette croix pour sauver les âmes, pour aimer notre prochain et garder les traditions. Voilà son message. Alors voilà ce que nous avons à faire. Observer les commandements de Dieu, faire la volonté du bon Dieu tous les jours de notre vie, offrir nos sacrifices pour la rédemption de nos péchés et la rédemption des péchés du prochain, et enfin, garder la foi, garder les traditions pour ne pas périr hors de l'Église. Voilà les conseils et l'exemple que nous donne Saint Nicolas de Flux. Puissions-nous les garder. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous inspirer l'ardeur, la sainteté de Saint Nicolas de Flux, que nous suivions son exemple et celui de notre Seigneur. Ce sera la meilleure leçon que nous puissions conserver de ce beau pèlerinage que le bon Dieu nous donne aujourd'hui, qui nous gâte aujourd'hui par ce temps magnifique et par cette réunion autour de vos jeunes prêtres, autour de ces prêtres qui offrent pour la première fois des messes solennelles dans ce lieu de Saint-Nicolas de Flux. Rendons grâce à Dieu et demandons qu'il y ait beaucoup de vocations, beaucoup de vocations à la sainteté dans les familles, beaucoup de vocations au sacerdoce et à la vie religieuse parmi les jeunes, afin de continuer ces enseignements de Saint Nicolas de Flux, afin de continuer l'exemple de ces saints qui nous ont montré la voie. Que le bon Dieu bénisse tous les pèlerins qui sont ici présents, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos malades, et nous garde dans la foi catholique de toujours, ainsi soit-il.